Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Urbania et l'inconvénient. Au programme, hommage aux bibliothèques, temple de la gratuité et avancée à tanton. Bonne écoute.
Hommage aux bibliothèques, temple de la gratuité. Un texte de Pierre-Luc Ouellette, paru le 1er mars 2023 dans le magazine Urbania. Depuis que je suis jeune, j'entends des gens critiquer le capitalisme. Avant, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais on commence à le savoir pas mal. Pendant que les ultra-riches deviennent de plus en plus ultra-riches, le reste de la population a une difficulté grandissante à manger et se loger. Sans compter que la planète se meurt sous la tonne de cossins qu'on produit quotidiennement. Et on se fait facturer pour tout, tout, tout. Il reste à peu près juste l'eau et le soleil qui sont gratuits, mais ça aussi, ça achève. On tente de privatiser tout ce qui ne l'est pas déjà, des soins de santé à l'éducation. Mais, tel un village gaulois, il reste une institution qui résiste tant bien que mal aux sirènes du capitalisme, celle des bibliothèques. Un lieu de partage, de gratuité, d'entraide, qui est au service de la population et de rien d'autre. Les bibliothèques sont bien plus qu'un entrepôt de livres poussiéreux. Elles sont un lieu d'inclusion et, permettez-moi d'en mettre un peu, un rouage essentiel de la démocratie. Accompagnez-moi dans cet hommage aux bibliothèques. La gratuité, une rareté. Connaissez-vous beaucoup de choses qui sont gratuites, vous? Même l'inscription à l'école secondaire, qui est supposée être gratuite pour tous, coûte souvent des centaines de dollars, ce qui donnait bien des sueurs froides à mes parents pas spécialement riches. Mais à la bibliothèque, tout est gratuit. Pour vrai, tant que vous êtes résident de la municipalité où se situe votre bibliothèque. Question de rendre ça encore plus accessible. Beaucoup de bibliothèques ont mis fin aux fameux frais de retard. Fait que, si vous avez oublié un livre pendant 6 mois sur le divan, pas besoin de paniquer. Une gratuité comme ça, sans condition ou presque, faut quand même ramener vos emprunts. C'est rare de nos jours. Mais les bibliothèques bénéficient d'un luxe qu'on ne se permet plus aujourd'hui. Elles n'ont d'aucune façon besoin de produire un profit. Au lieu de devoir plaire à des actionnaires, elles ont une mission beaucoup plus importante qu'on a oubliée aujourd'hui, prendre soin de la population. Ça fait donc des bibliothèques un lieu unique où tous les milieux se côtoient. Vous trouverez des enfants qui viennent lire des bandes dessinées, des étudiants qui viennent réviser ou chercher du matériel pour leurs travaux de session, des personnes âgées qui viennent passer le temps, des universitaires qui cherchent des ouvrages rares et des gens plus démunis qui viennent profiter de l'air climatisé et de l'Internet gratuit. Et c'est parfait comme ça. Connaissez-vous un autre lieu où tous les milieux se côtoient en parfaite égalité? C'est ça qu'on pensait. Je suis un gros fan de jeux vidéo, mais quand j'étais étudiant, j'étais beaucoup trop pauvre pour me permettre de m'acheter de nouveaux jeux. Je me nourrissais de ramen et de pois chiches en conserve. Vous comprendrez que mon budget PlayStation était mince comme peau de chagrin. C'est là que je suis vraiment tombé en amour avec les bibliothèques. Parce que oui, beaucoup de bibliothèques prêtent des jeux vidéo. De la génération Xbox 360 PS3 aux jeux tout neufs de PS5 et Xbox Series X. Il y a même des bibliothèques qui prêtent carrément des consoles. Des jeux vidéo gratis? Qu'est-ce que tu veux de plus? Des services variés. Naturellement, on associe les bibliothèques aux livres, mais c'est loin d'être juste ça. Comme je l'ai dit précédemment, les bibliothèques prêtent aussi des jeux vidéo, mais encore là, on effleure la surface. Vous voulez des jeux de société pour votre party, mais vous n'avez pas envie de payer le gros prix? Bibliothèque. Besoin d'une imprimante 3D? Bibliothèque. Vous voulez apprendre la guitare? La bibliothèque prête des instruments. Besoin d'un local pour une réunion? Bibliothèque. Certaines bibliothèques offrent même des semis pour que vous puissiez faire pousser des plantes et des légumes. Pas besoin de leur redonner. Ou du matériel de plein air, si vous voulez profiter de l'hiver, mais que vous n'avez pas les moyens de vous acheter des raquettes et des bâtons. Et ici aussi, je ne fais qu'effleurer la surface, car elles offrent aussi une foule de cours, des langues à la fabrication d'avions en papier, en passant par des cours de danse ou de prévention de la fraude pour les aînés. Bref, les bibliothèques font de tout, tant que ça peut aider les usagers. Oubliez l'image de la bibliothécaire qui vous regarde avec dédain et qui vous crie « chut » dès que vous respirez un peu fort. Il y a plus de chances que les vrais prennent de vos nouvelles puis vous demande s'il n'y a pas quelque chose qu'elle pourrait faire pour vous aider. Poursuivons avec hommage aux bibliothèques, Temple de la gratuité, un texte de Pierre-Luc Ouellette paru le 1er mars 2023 dans le magazine Urbania. L'antidote aux augmentations de Netflix. Vous trouvez que ça commence à être cher pas mal, 21 $ par mois pour Netflix, surtout que vous pouvez plus partager le compte avec vos parents et votre tendre moitié. La bibliothèque a des milliers de films et de séries à vous prêter gratuitement. Et c'est pas mal mieux que les services de streaming, ni vos choix. J'ai un amour démesuré pour Louis XIX, le roi des ondes, une comédie québécoise des années 90 mettant en vedette Martin Drainville. Récemment, je voulais réécouter ce bijou du cinéma québécois, mais c'était impossible de le trouver où que ce soit. Il n'est sur aucune plateforme de vidéo à la demande, il n'est pas en vente sur iTunes, il n'est sur aucun autre service du genre et les DVD sont en rupture de stock depuis 20 ans. Bref, c'est un film qui, suite à la fermeture des clubs vidéo, a été oublié de tous, sauf des bibliothèques. Après des jours de recherche, j'ai décidé d'aller voir si la BANQ avait un exemplaire du film. Deux clics plus tard, une copie du film était réservée à mon nom et il m'a suffi d'arrêter à la bibliothèque en revenant du travail pour pouvoir écouter Louis XIX. Et oui, c'est toujours aussi bon. L'accessibilité pour tous. Tu sais, quand on vous disait plus tôt que les bibliothèques sont un des rares lieux accessibles à tous, on ne parlait pas juste d'argent. C'est aussi une ressource incroyable pour les personnes en situation de handicap. Non seulement elles sont accessibles pour les gens en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, mais les bibliothèques offrent aussi des livres en braille ou en gros caractères pour les malvoyants, ainsi que des livres audio pour les gens aux prises avec de l'analphabétisme. Oui, pas besoin de savoir lire pour aller à la bibliothèque, entre autres choses. Et si vous êtes trop à mobilité réduite pour pouvoir même vous rendre à la bibliothèque, certaines bibliothèques offrent même de vous envoyer vos emprunts par la poste. Vous pouvez aussi réserver des livres numériques et les lire directement sur votre liseuse ou votre tablette. Un troisième lieu pour tous. Mais au-delà des prêts d'affaires, le fun, et des économies que ça peut engendrer, les bibliothèques sont importantes parce qu'elles sont un troisième lieu, c'est-à-dire un lieu en dehors du travail et de la maison, ouvert à tous sans discrimination. C'est l'un des rares endroits où on peut se tenir sans être obligé de consommer quoi que ce soit. Essayez de penser à un seul autre endroit à l'abri des intempéries où on ne vous demande pas d'argent pour avoir le droit d'exister. Partout ailleurs, ce serait du flânage. À la bibliothèque, c'est simplement être un usager. Mais ces lieux sont importants, surtout quand on vit dans la pauvreté au sein d'un logement bondé ou quand on est dans une situation difficile à la maison, notamment de violence. Justement, les bibliothèques se font une mission d'aider la population. Vous avez des documents gouvernementaux à remplir, mais vous ne savez ni lire et ni écrire, ou vous n'êtes simplement pas familier avec la bureaucratie. La bibliothèque va vous aider. Vous êtes un immigrant, un sans-abri. Vous vivez de la violence conjugale et vous ne savez pas vers qui vous tourner pour obtenir de l'aide? Les bibliothèques sont outillées pour vous aiguiller. Et ce n'est pas un lieu stigmatisant. Si vous vivez de la toxicité à la maison, mais que les refuges vous intimident, peut-être que les bibliothèques, où vous croiserez des gens de tout horizon, des travailleurs, des étudiants, des enfants, des artistes et autres, seront un peu plus rassurantes pour vous. Les bibliothèques sont un lieu unique, où tout le monde est le bienvenu et surtout, où tout le monde a droit à de l'aide, gratuitement. Emprunter et résister. Je sais que tout ça avait l'air d'une infopub, et pourtant non. C'est juste que, quand on parle de bibliothèque, je deviens très très enthousiaste. Je rêve d'un monde où le partage et l'égalité seraient des valeurs fondamentales et où on se préoccuperait davantage du bien-être de tous, peu importe leurs conditions médicales ou financières, que du profit des actionnaires. Et on a déjà un lieu qui fonctionne sous ce mode, les bibliothèques. Pourtant, elles doivent faire des pieds et des mains pour se démarquer et attirer la population en son sein. Elles ne demandent pas votre argent, seulement que vous franchissiez leurs portes et profitiez de leurs services gratuits. Empruntez un livre, une BD, un coffret DVD d'une série qui n'est pas disponible en ligne, un jeu vidéo, inscrivez-vous à des cours d'autodéfense féministe. Oui, c'est un vrai cours. Plantez des choux à la mode de chez nous, bref, participez à la vie de la bibliothèque. Un autre monde est possible. Et tout ce qu'il faut pour y accéder, c'est une petite carte en plastique. C'était « Hommage aux bibliothèques, temple de la gratuité », un texte de Pierre-Luc Ouellette, paru le 1er mars 2023 dans le magazine Urbania. Avancer à tâtons, un texte de Marie-André Lamontagne, paru dans le numéro 87 de la revue L'Inconvénient, à l'hiver 2021-2022. Le paradoxe de Fermi, vous connaissez? Pas la peine de chercher sur Internet, je vous le résume. Enrico Fermi est un physicien réputé qui a reçu le prix Nobel de physique en 1938. En 1950, un jour qu'il discutait avec ses collègues du projet Manhattan, il posa la question de la vie sur d'autres planètes et de ses traces éventuelles. Notre galaxie compte environ 200 milliards d'étoiles autour desquelles gravitent plusieurs centaines de milliards de planètes. Notre Soleil, qui a permis l'émergence de la vie sur la Terre, est une étoile encore jeune. Si d'autres étoiles ont engendré d'autres formes de vie, où sont-elles? Et à supposer que des civilisations extraterrestres en aient parfois résulté, où en sont les traces? Le cinéma et la littérature de genre se sont engouffrés avec joie dans les spéculations ouvertes par le paradoxe de Fermi, qui n'est peut-être qu'un autre nom donné, à 3 siècles de distance, au célèbre fragment des pensées. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Après tout, Pascal était autant géomètre que penseur et écrivain. Le paradoxe de Fermi apparaît furtivement dans « Sidération », le dernier roman de l'excellent romancier américain Richard Powers. Mais plus fortement et de manière diffuse, il imprègne aussi l'attitude de ces deux personnages principaux, l'astrobiologiste Theo Byrne et son fils Robin, âgé de 9 ans, lorsque tous deux pointent leur télescope vers la voûte étoilée. Et pour cause. Sidération jongle avec les notions de hasard, d'infinitésimal, d'infiniment lointain, de mémoire humaine, sauvée à dessein l'adjectif revêt une connotation religieuse, par les neurosciences et l'intelligence artificielle. Avec inquiétude et humilité, le romancier infuse ses enjeux dans une intrigue tout à fait de notre temps où l'éco-anxiété des uns le dispute au militantisme des autres, sur fond de vociférations d'un président populiste et d'injonctions sociales à performer et à produire. L'œil mental connaît deux sidérations. L'arrachement à la lumière, l'entrée dans la lumière, page 67, fait remarquer le père et narrateur de cette histoire de deuil impossible, celui d'une mère, pour ce qui est de Robin, celui d'une compagne aimée et admirée pour ce qui est de Theo Byrne. Très exactement. La remarque lui vient alors qu'il observe les effets sur son fils de la lecture d'un roman de science-fiction, « Des fleurs pour Algernon » de Daniel Keyes, 1966, qu'il avait lui-même subjugué à 11 ans. Ce clin d'œil fait en passant un petit maître du genre est aussi une manière pour le romancier de reconnaître sa dette à l'endroit de la littérature, capable de changer le regard posé sur le réel, voire d'orienter le cours d'une existence, puisque l'abondante et hétéroclite bibliothèque de science-fiction que se constitue dès lors le gamin Théo le conduira, après quelques tâtonnements existentiels, à faire des études poussées en biologie. De façon plus générale, dans le roman, l'arrachement à la lumière survient à la mort d'Ali, qui laisse un orphelin et un veuf inconsolables. Pour achever de compliquer les choses, le jeune Robin est doté d'une sensibilité et d'une intelligence extrême, façon Asperger. Ce monde, qui va mal et est menacé d'extinction, il le perçoit sans filtre et il en est blessé. À l'école, les relations avec ses camarades sont difficiles et dégénèrent souvent en bagarre. Son esprit saisit la complexité de certains sujets, mais dans les détails, sans conférer une vue d'ensemble. Son goût pour le dessin, en particulier celui des animaux, tourne à l'obsession douloureuse, d'autant qu'il est végane, héritage d'une mère militante, juriste farouchement engagée dans la cause écologiste auprès de plusieurs ONG. Et puis, il y a que ce petit garçon est élevé par son père, seul, forcément insuffisant, forcément dépassé, dit le regard social posé sur eux. Ce qui n'est pas entièrement faux sans être vrai pour autant. Voilà pour l'arrachement. Et l'entrée dans la lumière? Elle se fait par la science, ce qui est heureux quand l'émerveillement et la curiosité sont au rendez-vous, comme par rapport à ces exoplanètes qu'invente le père pour son fils, à raison d'une nouvelle description chaque soir à l'heure du coucher. Ce qui est plus risqué, quand le même se laisse convaincre par un ancien amant de sa femme, neurologue à la tête d'un laboratoire à la fine pointe de l'innovation, de pratiquer sur son fils une thérapie appelée « neurofeedback décodé », page 129. Encore expérimentale, cette dernière entend repousser les limites de la connaissance du corps humain obtenue grâce à l'imagerie par résonance magnétique pour permettre à l'individu d'activer les régions précises du cerveau qui l'aideront à surmonter ses traumatismes, à gérer ses émotions, en somme, à s'adapter à la société. On voit le danger. Si Theo Byrne aperçoit le clignotant rouge, sa détresse de père le fait passer outre. Du reste, ce ne sont pas les dérives technicistes de la science qui forment le sujet de ce roman. Plutôt, ce qui de l'amour survit à la mort dans un monde beau et fragilisé. L'émotion viendra de là. Je vous rappelle que vous écoutez « Avancer à tâtons » de Marie-André Lamontagne, un texte paru dans le numéro 87 de « L'inconvénient », hiver 2021-2022. Bonne nouvelle! Sidération est un roman ambigu. Il montre sans rire le père qui, certains jours, sert à son fils son émietté de tofu préféré, page 343, pour le consoler d'une mauvaise passe et veille chaque soir à réciter avec lui la prière laïque enseignée par la mère de son vivant. Or, ce faisant, le roman montre surtout à quel point l'être humain est une créature fragile, démunie devant la vie. Le monde, dira un jour le père, est une expérience de validation avec pour seule preuve la conviction. Page 179. Sidération se fait en outre le chantre de la nature dans son infinie diversité et sa capacité de renouvellement, tout en montrant les possibilités de la science et de la technique, à la fois artifice et outil. Au centre du dispositif, mais pour combien de temps encore? La créature humaine, ses souvenirs, ses servitudes volontaires, ses aspirations, ses tâtonnements sont hubris. L'Amérique contemporaine, Richard Powers posait déjà sur elle un regard oblique dans « Trois fermiers s'en vont au bal », roman où une photo prise au début du siècle dernier ouvrait sur des gouffres. Son œuvre compte aujourd'hui 13 romans. Certains primés, le Pulitzer pour l'Arbre Monde en 2019, le National Book Award pour la Chambre aux Échos en 2006. On lira Sidération comme une variation, en plus sophistiquée, du Petit Prince de Saint-Exupéry. Robin étant d'ailleurs appelé ainsi à quelques reprises par son père. Mêmes interrogations fondamentales sur l'existence, même petit garçon doté d'une vieille âme, même omniprésence des planètes, même prise de conscience de ce qui gît sous les fausses apparences de la normalité, même départ émouvant vers les étoiles. Parmi les tombes, la mort, donc. Elle a ses rites et son lieu de prédilection, le cimetière. C'est donc celui d'une petite ville d'Autriche, Paulstadt, que le romancier Robert Seethaler fait entendre les voix des morts, demeurer audibles à qui s'est prêté l'oreille, au-delà de l'agitation des vivants prompt à n'en faire qu'un bourdonnement confus. Mais encore faut-il, pour les entendre, se rendre dans la partie la plus à l'écart du cimetière, celle appelée le champ, parce qu'elle fut d'abord une friche caillouteuse et qui donnera son nom à ce roman choral magnifique et vibrant. Le champ s'ouvre sur la déambulation méditative d'un homme dans cette section précise du cimetière, qui annonce une méthode. Revenir à chaque jour, seul, se savoir soi-même vieillissant, s'imprégner des lieux et des inscriptions sur les pierres tombales, s'asseoir sur le banc vermoulu, se souvenir des gens qu'on a connus, puis rentrer chez soi, tourner le dos au monde en toute tranquillité, se mettre à l'écoute des voix, écrire. Surgit alors la vie, comme si la terre s'ouvrait pour laisser sortir des êtres de chair et de sang, venus évoquer, post-mortem, des épisodes de leur existence pour la restituer dans sa singularité profonde. À tour de rôle, ces morts-là disent les hommes et les femmes qu'ils furent, empêtrés dans leurs aspirations, cherchant à donner un sens à la somme de leurs jours, non sans vouloir l'infléchir de temps à autre, avant d'être rappelés à l'ordre par les déterminismes sociaux, les pesanteurs de la condition humaine et de l'histoire, tels que l'auteur du « Tabac Tresniec » avait su déjà les montrer. Ici, 29 courts chapitres, 29 noms, autant de portraits exempts de tout misérabilisme, qui rappellent que la mort n'efface pas les sujets qu'elle emporte. Voyez la folie du père Auberg, qui mettra le feu à son église. Le sentiment d'abandon impuissant de Bernard Silbermann sur la tombe duquel Camille, l'épouse, dépose un dernier adieu avant de refaire sa vie. L'amitié au jour compté entre Suzanne Tesler et Henriette, sans patronyme, dans une maison de santé pour vieilles dames. Les souvenirs de fuite pendant la guerre, avec sa fille encore enfant, que la vieille Stéphanie Stanek emportera dans la tombe. La fleuriste, Grégorina Stavak, découverte dans sa boutique 2 semaines après sa mort solitaire. Et tant d'autres évocations, 29 en tout, on a dit. Qui font parfois se croiser les points de vue sur un même épisode, mais qui toutes témoignent d'une humanité profonde, jusque dans les allusions plus ou moins sereines du sujet à sa propre disparition. « J'ai tout de même une idée, dira Anne-Lie Lorbeer, de ce que c'est que mourir. Ça met un terme au désir. Et si on se tient tranquille, ça ne fait pas mal du tout. Page 217. En faisant monter ces voix des profondeurs du sol, le chant restitue aussi les contours de Polstadt, d'abord bourgade s'élevant sur quelques parcelles de terre enlevées à la culture, bientôt bourg, défini par sa rue principale, la Markstrasse, et ses commerces, puis petite ville assoupie se développant après la guerre et qu'on ne quitte jamais tout à fait. Nul n'échappe au lieu d'où il vient, semble ainsi dire le romancier. Sauf peut-être Richard Régnier. Dans Le Chant, l'homme n'a pas droit à un chapitre distinct, mais il a beaucoup mieux. Oblique, filtré par le regard d'autrui et l'usage de la citation, sa voix et sa présence s'imposent discrètement, et cependant avec force. Né à Polstadt, considéré comme un simple d'esprit, Richard Régnier était appelé le fou. Un jour, il s'est volatilisé. Pourtant, lui seul savait voir quand, dans la nuit, à la faveur de certaines conditions météorologiques, le ruban de la route menant à la nationale iriserait la colline au loin d'une lueur bleutée. « Petit miracle dans l'obscurité, » dit le romancier. « Dans l'obscurité de nos vies. » C'était « Avancer à tâtons », un texte de Marie-André Lamontagne, paru dans le numéro 87 de « L'inconvénient » à l'hiver 2021-2022.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Nicolas Hartmann à la recherche, à la présentation et au montage.